Ramsey.
Poi ancora Breme che realizza al 33esimo la seconda rete, gran tiro dalla distanza, vedete.
Lothar Matthäus, grande protagonista nell'Inter di quella stagione trionfale 1988. Ecco Lothar Matthäus, ricordiamo 142 presenze con la nazionale tedesca e ad un solo gettone di presenza di distanza da Ravelli.
Ci pensa naturalmente Jürgen Klinsmann, che nello spazio di 4 minuti e mezzo stampa 2 gol. Il secondo pure, sfruttando l'assist del povero Pritz.
RMC, After Italy,
Jérôme Sillon.
Salut à tous, merci de votre fidélité à l'After Italy, votre podcast RMC Sport à écouter et à regarder sur toutes les plateformes. Chaque semaine dans l'After Italy, on part à la découverte des clubs, des histoires et des joueurs du football italien avec notre drôle de dame italienne, Johan Crochet. Ciao Johan.
Salut Jérôme, ciao à tutti.
Avec Loïc Moreau, salut Lolo.
Salut Jay, salut tout le monde.
Et avec Polo Breitner, et oui, il est là dans l'After Italy, Polo, notre ami, notre drôle de dame allemande. Ciao Polo.
Bonjour mon cher Jérôme, bonjour tout le monde.
Tu parles italien un peu Polo ou pas, non?
C'est un des grands regrets de ma vie, je peux lire, j'ai envie de dire ça comme ça, mais je ne parle pas et je le regrette.
Bon, merci d'être avec nous Polo, c'est un After Italy spécial quart de finale de Ligue des Champions entre l'Inter et le Bayern. L'Inter, le club italien qui a vu passer le plus de joueurs allemands dans son histoire, 10 au total, parmi lesquels Rummenigge ou Zammer. Nous, on va s'intéresser à un trio qui a marqué ensemble, l'histoire des Nerazzurri au tournant des années 90, un trio d'anciens joueurs du Bayern, Lothar Matthäus, Andreas Breme et Jürgen Klinsmann. D'abord, Johan, il faut rappeler le contexte. Pourquoi cette histoire d'amour, finalement, entre l'Inter et les Allemands dans les années 80?
Alors déjà, il y a un triple contexte sur l'arrivée de Matthäus et Breme. Le premier, c'est qu'en 88, en Italie, on a l'autorisation d'engager un troisième joueur étranger, puisque jusque-là, c'était limité à deux. Donc tous les clubs lors du mercato estival 88 se dépêchent de recruter de nouveaux joueurs étrangers, en tout cas au moins un si ils en avaient déjà deux. Donc il y a par exemple 30 joueurs étrangers qui arrivent sur le mercato estival, le championnat est à 18 clubs, hein, donc c'est vraiment assez massif. La deuxième chose, c'est qu'à l'Inter, Altobelli, qui est un joueur historique et emblématique, s'en va. Part à la Juve chez le rival, et donc en plus du départ d'Enzo Schifo qui est fait une seule année, qui était un des joueurs étrangers belges en l'occurrence, ça fait deux places libres, donc il faut les remplacer. Et puis la troisième chose, c'est que l'Inter et son entraîneur Giovanni Trapattoni, ils veulent répondre à l'AC Milan d'Arrigo Sacchi, qui a remporté évidemment le Scudetto avec deux Néerlandais, Ruud Gullit et Marco van Basten, le troisième arrivant Rijkaard. Et donc, ils ont la volonté claire d'aller frapper fort sur le marché des transferts. Et à ce moment-là, il y a du côté de l'Inter, il y a une claire volonté, c'est d'aller chercher Matthäus. Plus que Breme, c'est vraiment Matthäus qui matrixe tout le monde à l'Inter. Et d'ailleurs, quelques semaines auparavant, lors de l'Euro 88, il y avait eu un match entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Italie, en phase de groupe, un partout, et Breme avait marqué. Il y avait donc un partout. Lothar Matthäus, je crois, était un peu fautif sur le but de Roberto Mancini. Et il y avait cette volonté d'aller chercher Matthäus. Et de fil en aiguille, ils ont réussi à inclure aussi Andreas Breme dans le deal, ce qui a amené les deux joueurs allemands, qui amenaient aussi de l'expérience à un groupe qui en manquait un petit peu à l'Inter.
Polo, ce n'étaient pas les premiers Allemands, ces trois-là, Klinsmann, Breme et Matthäus, à signer à l'Inter?
Non, mais en fait, ce qu'a dit Johan est très important, le passage de deux à trois étrangers autorisés. Puisqu'on avait eu, alors je ne vais pas parler des années 60, parce que j'ai pas vu les rencontres, et puis ce ne fut pas un grand succès, mais le premier véritable Allemand, j'ai envie de dire, du football moderne, c'est Hansi Müller, qui lui est là de 82 à 84, et il est forcé de partir en 84. Déjà, c'est pas deux belles saisons, il se blesse, il a des problèmes de blessure, parce que on amène Karl-Heinz Rummenigge. Karl-Heinz Rummenigge, il faut rappeler quand même ce que c'est double ballon d'or 1980-1981, mais donc il faut lui faire de la place. Donc Hansi Müller est forcé de partir à Köln, si je me rappelle bien, donc c'est important. Et Karl-Heinz Rummenigge, c'est important. Je rajouterai par rapport à ce qu'a dit Johan, pourquoi les Allemands, c'est qu'au-delà de l'Allemagne, c'est qu'il y a une relation particulière qui va se créer entre l'Inter et le FC Bayern. Pourquoi est-ce que Rummenigge part en Italie? Il y a deux raisons. Un, ça devient, rappelons que les Allemands sont numéro un au classement UEFA. En gros, la Bundesliga est le meilleur championnat du monde entre 1976 et 1984. Et évidemment, la Serie A va devenir la référence ultime des championnats européens, comme est la Première Ligue aujourd'hui. Et donc, tous les grands champions vont être naturellement aspirés par la Serie A. Mais il y a un autre facteur, c'est que le FC Bayern est en difficulté financière. Car Heinz Hulioness avait pris quelques années avant le poste de manager. Et en fait, l'Inter va sauver quelque part financièrement le Bayern Munich en récupérant Rummenigge. Et puis, n'oublions pas qu'on est quand même à Milan. Milan, c'est la Lombardie. Ça n'a l'air de rien, mais moi, je parle souvent des identités culturelles. La Lombardie, ça veut dire les longues barbes. Ça, on sait d'où ça vient, c'est du proto-germanisme, on sait très bien ce que c'est. Je le dis souvent, on en discute avec Johan, quand je suis à Milan et que je vois dans les cafés des beaux costumes italiens et les Italiens qui lisent la Frankfurter Allgemeine Zeitung, je suis toujours un petit peu en train de rigoler. Donc je dis pas qu'on est en territoire conquis, mais il y a quand même des relations très particulières. Milan est beaucoup plus proche culturellement parlant de l'Allemagne et de la Suisse alémanique évidemment que de Naples, on va dire, que le sud de l'Italie. Donc, cette relation entre l'Inter et le Bayern va perdurer. Donc ça, c'est pour ça que c'est très important. Et puis, on parle de Karl-Heinz Rummenigge. Et c'est extraordinaire la façon dont Rummenigge parle de son passage en Italie et à l'Inter, puisqu'il était évidemment une superstar en Allemagne, mais il devient une superstar mondiale parce qu'en face, il va affronter les Brésiliens, il va affronter les Néerlandais, il va affronter Maradona, etc. C'est un truc de fou, en fait. On est en train de créer le super championnat, la Serie A. Et quand on voit les équipes qu'il y avait, même s'il n'y avait que trois joueurs, quand on voit l'opposition historique entre les Pays-Bas et la RFA, avoir dans le derby de Milan les Allemands d'un côté contre les Néerlandais, je pense que médiatiquement, ça doit exploser dans tous les sens.
Et donc Klinsmann arrive l'été suivant, donc contre 4 milliards de lire. On va parler de leur performance sportive. Vas-y, Yo.
Non, juste pour la petite anecdote, quand les Allemands arrivent à l'Inter, les Néerlandais du Milan les prennent un peu de haut en disant « Ouais, nous, on a l'habitude de battre l'Inter, donc ils vont amener un petit peu plus d'expérience, mais ça ne va pas changer grand-chose pour nous. On va pouvoir se confronter à eux. Moi, en tant que Néerlandais, ça me fait un peu plaisir de jouer les Allemands, etc. etc. » Donc, au niveau médiatique, évidemment, ce que disait Polo, ça prend exactement. Et dernière petite chose, Lothar Matthäus, avant d'arriver à l'Inter, la saison précédente, il aurait pu aller à Naples. Parce que Diego Maradona a tout fait pour que le Napoli recrute Lothar Matthäus. Il y a une délégation du Napoli qui est même allée à Munich voir Lothar Matthäus avec une valise, ça c'est Lothar Matthäus qui le raconte, une valise remplie de billets, 1 million de Deutschmark. Et ce n'était pas un contrat, ça c'était juste pour qu'il accepte de venir au Napoli. Et ensuite, ils auraient discuté gros sous au niveau du contrat. Mais Lothar Matthäus a choisi de rester au Bayern à l'époque.
Alors Lolo, c'est une réussite sportive immédiate avec Matthäus et Bremeux, et il le fallait parce que l'Inter n'était pas le club le plus en réussite d'un point de vue domestique à l'époque.
Non, clairement pas. Ils avaient pu gagner le Scudetto depuis 1980, la Coupe d'Europe depuis 2 Coupes d'Europe depuis 1965, donc la disette commençait à être un peu longue. Et puis ouais, tu l'as dit, l'effet est immédiat puisque dès la première saison donc, du duo allemand, du duo à l'époque, ils ne sont que duo Matthäus-Bremeux, l'Inter en porte son 13e Scudetto avec un record de victoires dans un championnat à 18 équipes. Et ils vont enclencher, entre guillemets, un cercle vertueux avec des nouvelles victoires à la clé pour un club qui en avait été sevré pendant un bout de temps.
Alors, ces performances-là sur cette première saison, Johan, elles ont marqué l'inconscient des supporters de l'Inter. Ce duo Bremeux-Matthäus, il a vraiment brillé autant qu'on le dit.
Oui, parce que il y avait des joueurs de évidemment Walter Zenga dans les buts, il y avait Bergomi en défense, il y avait Baresi qui, alors Baresi pas Franco hein, évidemment, BP Baresi le frangin qui jouait à la fois au milieu de terrain ou en défense, qui pouvait dépanner un peu partout. Il y avait Aldo Serena devant, donc il y avait des joueurs de qualité. Mais Bremeux dans son rôle de latéral très offensif qu'on n'avait pas encore énormément en Italie, même si un joueur comme Cap avait aussi ce profil-là à la Juve, lui a vraiment amené beaucoup de densité, beaucoup de volume de course, beaucoup de technicité sur un poste de latéral qu'on n'avait pas dit. Lothar Matthäus, c'était plus un 6-8 à l'époque, plutôt même 6 à l'Inter, là où il brillait vraiment, où il devait, par sa science tactique, par sa lecture du jeu et par sa qualité évidemment technique supérieure et ses trois poumons aussi, permettre à l'Inter de récupérer les ballons, les redonner propres et même avancer un petit peu ballon au pied sur le terrain. Mais j'ai juste retenu une phrase de Trapattoni pour vraiment signifier l'importance qu'ont eu les deux Allemands dans le Scudetto. À la fin de la saison, on lui demande, donc à la fin de la saison 88-89, on lui demande qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi l'Inter a gagné le Scudetto, vous n'étiez pas pour ça. Et Trapattoni répond, on pensait qu'on serait dans une saison de transition, et à l'inverse, nous voici champions avec un record en plus. Que s'est-il passé? C'est simple, on a recruté deux Allemands, deux authentiques capables de motiver dans tous les autres joueurs avec eux grâce à leur expérience et leur personnalité. Andy et Lothar ont été exceptionnels. Ça résume exactement ce qu'ils ont apporté, le caractère, la personnalité, réussir à entraîner les autres, leur expérience également et leur qualité technique sur le terrain.
On n'a pas entendu le mot, mais c'était Panzer, en fait. Deux authentiques Panzer.
Ouais, voilà, voilà. Panzer, ouais, c'était pour le mot, évidemment, pour la comparaison. Lolo, évidemment, au-delà de Brémeux, c'est surtout Matheus qui est le joueur, on va dire, le plus important dans cette saison 88-89 à l'Inter.
Oui, clairement, parce que Johan l'évoquait, il y avait devant un attaquant italien qui s'appelait Aldo Serena, qui était un vrai buteur et qui a été sublimé en fait par l'arrivée de Matheus. Matheus, en fait, il savait tout faire. Au-delà d'être un joueur qui était très effectivement, qui avait un gros volume, il savait marquer, il savait donner des passes décisives. Et si on regarde sur cette saison, donc du Scudetto, il participe à 39 matchs au total, toutes compétitions confondues, 17 buts, 9 passes décisives. Et si on regarde sur son bilan global de son passage à l'Inter, donc en 4 saisons, c'est 59 buts et 16 passes décisives en 169 matchs. Donc c'est vraiment des stats assez impressionnantes, surtout pour un joueur qui n'était pas un pur attaquant.
Des stats, des titres qui lui ont valu d'être introduit au Hall of Fame de l'Inter en 2018. Un honneur pour lui. Écoutez ce que disait donc il y a quelques années de cela Lothar Matheus.
Sicuramente sono contento, sono felice, ma per me la trofea è una cosa perché io, come ho detto prima, ho giocato in una buona squadra.
Bien sûr, je suis content et heureux, mais ce trophée je l'ai gagné parce que j'ai joué dans une bonne équipe, parce qu'on a gagné des titres ensemble. C'est pour cette raison que j'ai une place dans le cœur des supporters de l'Inter. L'Inter aussi a une place dans mon cœur. Je suis un étranger, je suis né en Allemagne et j'y ai joué longtemps. Mais les 4 années que j'ai passées à l'Inter sont les plus belles de toute ma vie. C'est beau. Ça fait plaisir.
Ah, ça fait plaisir.
Polo, c'est à ce moment-là aussi que Lothar Matheus va remporter le Ballon d'Or avec l'équipe d'Allemagne à la Coupe du Monde 90 en Italie. C'est le très grand Lothar Matheus qu'on voit donc sous le maillot de l'Inter.
Ah mais Johan l'a dit, on ne se rend pas compte, lorsque Johan parle des trois poumons de Matheus, le monde en fait découvre qui est Lothar Matheus. C'est-à-dire que lorsqu'il était à Mönchengladbach, parce que c'est un enfant de Mönchengladbach, on avait Jupp Heynckes, qui était son entraîneur, qui avait repéré qu'il était différent des autres et qui lui avait déjà dit à l'époque la relation avec Maradona, qui sera sur le terrain par la suite, c'est que tu ne seras jamais un numéro 10 comme Maradona, mais tu pourras jouer à différents postes, tu seras un 6, tu seras un 8, tu seras un 10, parce qu'il avait un volume de jeu extraordinaire. Et en Italie, il va devoir s'adapter à la culture tactique italienne. Les Allemands sont complètement à la rue par rapport aux Italiens. Donc, lui, il s'adapte. Et ce qu'on oublie tout le temps, c'est que Matheus, c'est un monstre de travail. C'est quelqu'un qui s'en fiche à la rigueur dans quel club il est. Mais lui, il se met des adversaires en face de lui. Il n'aime pas Klinsmann. J'espère qu'on abordera cette question. Et c'est quelqu'un qui travaille comme un fou. Et en fait, c'est un peu le footballeur moderne qui est en train d'arriver, qui compense par son physique peut-être le fait de ne pas être aussi doué qu'un joueur comme Maradona, et encore, parce que chacun a ses profils, mais ce qu'il fait à l'Inter en 1989, notamment marquant le but du 2-1 contre Naples pour le titre 1989, et ensuite le volume qu'il a lors de la Coupe du Monde 1990 avec la RFA, avec... Encore une fois, Maradona en finale, c'est toutes ces choses-là, et Brémeux qui marque le but, fait que tu as le plus grand joueur de l'époque qui méritait évidemment le Ballon d'Or, mais surtout c'est joueur à maturité lente, comme on dit maintenant, c'est-à-dire c'est à 29 ans, et le gars il va encore tenir plus de 10 ans, et on se rend pas compte ce qu'est Matheus. C'est un monstre de travail qui tire l'équipe, on l'aime pas, c'est un quelqu'un qui est très spécial, notamment avec la presse, qui aime bien se montrer, etc. Klinsmann est beaucoup plus reculé par rapport à ça, a plus de recul par rapport à ça, mais pourquoi est-ce qu'il a porté le Bayern? Pourquoi est-ce qu'il a porté l'Inter? Pourquoi est-ce qu'il portera le Bayern encore après? C'est parce que c'est un leader, comme on dit, c'est un Leitwolf, un chef de meute, comme on dit en Allemagne, et la plus grande, vous parlez des Panzers, c'est Il Panzer, évidemment, pour Matheus, mais la plus grande compliment que j'ai entendu de la presse allemande, c'est « Il grande Matheus »,« Il grande Lothar ». Et ça, c'est pas n'importe quoi quand on est dans une presse étrangère. Et quand je compare avec la presse allemande qui a une tendance naturelle à détruire ses idoles du jour au lendemain, ben je dis, moi, chapeau à la presse italienne de bien avoir compris quel était le joueur qu'ils avaient sur le terrain.
Lolo, il y a aussi évidemment Andreas Bremer qui a beaucoup compté dans ce titre 88-89 et même pendant ses 4 ans à l'Inter, lui aussi a brillé.
Ouais, lui aussi a brillé et c'est vrai que bon, c'est un joueur qui, de par son poste aussi, était un peu moins exposé, mais il a été très très précieux avec, avec l'Inter. Lors de sa première saison, notamment, il dispute 44 matchs, toutes compétitions confondues, pour 3 buts et 3 passes décisives. C'était un pied gauche fantastique. Andreas Bremer, un pied droit fantastique aussi. Sur coup de pied arrêté, c'était une vraie machine. En fait, il avait la capacité de marquer et de faire marquer. Et c'est vrai que c'était, Johan le disait, c'était un profil qui était quand même assez rare à l'époque. Maintenant, on est habitué aux latéraux offensifs, mais à l'époque, c'était assez rare. Et c'est peut-être des trois Allemands celui qui a laissé le meilleur souvenir dans le vestiaire de l'Inter. C'est-à-dire que bon, il nous a quitté en plus très récemment, Bremer, mais sur tous les productions qui ont été faites sur cette période-là. Et ben la plupart, les Bergomi, les Zenga, tout ça, ils louent tous la qualité aussi humaine d'Andreas Bremer.
Lui aussi parlait italien d'ailleurs, Johan. Comme Lothar Matthäus en interview, il s'était parfaitement intégré à ce vestiaire de l'Inter. Il a gardé, on en garde vraiment une très très belle image.
Oui, oui, les deux ont une très grosse influence, beaucoup plus que Jürgen Klinsmann qui arrivait juste après. Même s'il a été globalement assez performant, Klinsmann, il n'a pas eu la même aura, il n'a pas eu la même intensité dans ses relations avec l'environnement interiste. D'ailleurs, Klinsmann le disait, quand il est parti de l'Inter, il en avait un peu ras-le-bol de certains éléments du système italien rallongé, il avait besoin d'autre chose, d'être un peu plus libre. Les autres se sont fondus, peut-être parce qu'ils étaient extrêmement travailleurs aussi. Polo le disait pour Matthäus, c'était aussi le cas de Bremer, très travailleurs, donc ça ne les dérangeait pas de passer beaucoup de temps sur le terrain, beaucoup de temps entre eux. Ils se sont parfaitement fondus. Tu parlais du Hall of Fame, évidemment, pour Matthäus. Il y a d'autres joueurs de cette époque-là, comme Bergomi et Zenga, qui y sont aussi. Et aujourd'hui, bah, par exemple, Loïc rappelait le décès d'Andreas Bremer. Il y a eu plusieurs pages spéciales dans la presse italienne sportive au moment de son décès pour rappeler quel formidable joueur il était, combien il avait été important. C'est un peu décevant parfois pour les supporters de l'Inter parce qu'à l'échelle européenne, quand on parle de contingent étranger en Italie, tout le monde parle des Néerlandais de Milan. Alors ils étaient peut-être plus beaux, ils ont plus gagné de titres aussi en Italie, plus gagné de titres à l'échelle européenne, ils ont plus brillé dans une équipe révolutionnaire d'abord avec Sacchi et ensuite avec Capello. Mais en Italie, les Allemands de l'Inter ont une place spéciale dans l'histoire du football italien, sont reconnus encore aujourd'hui comme des éléments fondamentaux des années 80 en Italie. Et les années 80 en Italie, Polo le disait, c'est les plus belles années du football italien avec les années 90. C'est là où le championnat italien est devenu le meilleur, ça dépend ce qu'on met derrière meilleur, mais le meilleur championnat européen où toutes les stars voulaient venir, à tel point que même un Brésilien comme Zico se retrouve à l'Udinese. Je veux dire, imaginez dans les années 2000, Ronaldinho allait à l'Udinese. C'est inconcevable. Mais les années 80, c'était ça. Et les interistes, les Allemands pardon, de l'Inter, encore aujourd'hui, font figure de modèle d'intégration pour des joueurs étrangers en Italie et surtout de superstars qui sont devenus dans le championnat italien.
Polo, quel souvenir tu gardes d'Andreas Bremer sous le maillot de l'Inter ?
Moi, c'est pas spécialement. Alors, c'est frappe, évidemment, sur coup franc ou des choses comme ça, mais c'est pas forcément son passage à l'Inter. C'est plus la relation qu'il avait avec un autre Allemand qui est allé en Italie, qui est Rudi Völler, c'était des vrais potes. Et les mecs, ils ont découvert la Dolce Vita que certains joueurs allemands n'accepteront pas ou n'arriveront pas à s'adapter, je pense.
La Dolce Vita, pas la Deutsche Vita, Polo.
Oui, la Dolce Vita. Mais il y a différents joueurs allemands qui n'ont pas réussi à s'adapter. D'ailleurs, Matthias Sammer, c'est exactement ça. C'est quelqu'un qui vient de l'ex-RDA. C'est compliqué pour lui de s'adapter. C'est quelqu'un qui voulait toujours plus aussi. Et quand Zenga lui parlait de la musique ou du festival de Milan-San Remo, etc., bon, bah, il avait peut-être un peu de problème, Matthias Sammer. Donc, ça l'a pas empêché d'être Ballon d'Or les années suivantes. Mais donc, moi, Bremer, c'est quelqu'un, et c'est très bien ce qu'a dit Johan sur comment la presse italienne l'a félicité, parce qu'en fait, en Allemagne, c'était pareil. C'était évidemment un joueur qui a un palmarès long comme le bras, mais le mec, il a fait, tout le monde était d'accord avec lui, que ce soit de Kaiserslautern à l'Inter, où vous voulez, c'est quelqu'un qui faisait l'unanimité et qui en plus était pas mauvais sur le terrain et qui avait une frappe de bison en plus, donc ça, moi, ça me plaisait évidemment. Mais donc, c'est pas une image, c'est plutôt le fait que la carte postale italienne en Allemagne, eh ben, il y a Bremer dessus, quoi.
Klinsmann, lui, il n'a pas remporté le Scudetto avec l'Inter, Lolo, mais il a quand même marqué pas mal de buts, il a gagné un trophée.
Oui, et puis comme le disait Johan, en fait, il arrive un peu après la fête, c'est dommage Klinsmann, mais il n'arrivera pas en championnat à dépasser la troisième place, puisque c'est là où va se classer l'Inter durant les deux saisons suivantes, et puis après la dernière sera assez catastrophique. Il va quand même réussir à gagner la Coupe de l'UEFA, hein, je tiens à le rappeler, Johan ne le savait peut-être pas, c'était contre la Roma, justement de Rudi Völler et Thomas Berthold, ça se jouait en finale aller-retour. Mais oui, il y a Klinsmann, à part ce trophée-là, et effectivement les performances sur le terrain qui restent quand même correctes, 40 buts et 11 passes décisives en 123 matchs et 3 saisons passées avec l'Inter. Donc le bilan est plutôt bon, mais effectivement l'impact n'a rien à voir avec ce qu'on a évoqué de Matthäus ou de Bremer.
Polo, tu voulais nous dire un mot sur la relation qu'entretenaient Jürgen Klinsmann et Lothar Matthäus?
Ou la non-relation, plutôt. Parce que c'est en fait, lorsque Lothar était à l'Inter, donc Klinsmann arrive, et en fait, ce sont deux caractères complètement opposés. L'un est assez excentrique, c'est Lothar Matthäus, il joue beaucoup avec les médias. Et de l'autre côté, on a un Klinsmann qui, lui, n'aime pas trop les médias, mais c'est surtout quelqu'un de très individualiste, qui a son petit groupe autour de lui et, selon Lothar Matthäus, aime bien faire des petits coups bas pour qu'on le mette en avant. On l'a vu aussi par la suite. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Lothar Matthäus va retourner au Bayern Munich et on va, comment ça s'appelle, saison, alors attendez, j'ai un trou de mémoire, saison 96, si je me rappelle bien, non, 95, excusez-moi, le Bayern, alors qu'on sait très bien déjà que Lothar et Jürgen ne peuvent pas s'entendre, et ben le Bayern va créer, via Uli Hoeneß, le fameux FC Hollywood, et va ramener Jürgen Klinsmann, et là, ça va exploser dans tous les sens. C'est-à-dire, ce sont des joueurs qui se détestent. Lothar Matthäus dira qu'il n'a pas été à l'Euro 96 parce qu'il y avait une réunion secrète au mois de décembre 1995 lors d'une tournée de la Nationalmannschaft en Afrique du Sud et que Jürgen Klinsmann était en train d'ourdir des complots contre Matthäus qui lui à l'époque était blessé, essayait de revenir, etc. C'était une ambiance très très spéciale et j'ai envie de dire, comme il y a eu deux Allemagnes, bah dans le monde du foot, il y avait d'un côté Lothar Matthäus et il y avait de l'autre côté Jürgen Klinsmann et honnêtement, il ne s'aimait pas du tout, du tout, du tout.
Johan, on peut dire quand même, quand on regarde finalement dans le rétroviseur, que si l'Allemagne gagne la Coupe du Monde 1990, c'est aussi grâce à ses interistes finalement.
Ouais, et pas seulement. C'est une période où il y a d'ailleurs beaucoup de joueurs allemands hein, qui sont en Serie A. Loïc parlait de Rudi Völler et Thomas Berthold. Ensuite, on a eu Thomas Hessler, on a eu Jürgen Kohler, on a eu Matthias Sammer. Ils venaient tous parce que c'était aussi le meilleur championnat, que ça payait aussi très très bien, on va pas se mentir, le championnat italien avait des ressources économiques très très élevées à ce moment-là. Évidemment, quand tu joues, mais ça c'est l'histoire des sélections nationales, quand tu joues au plus haut niveau, quand les joueurs individuellement jouent au plus haut niveau, ça sert aussi la sélection nationale. La France le connaît très bien, France 98, et les joueurs qui évoluaient tous en Italie, et ben, quand vous prenez l'Allemagne de 88, 90, 92, il y a beaucoup de joueurs allemand qui évolue aussi en Italie et pas dans des petits clubs. Hein. Il joue dans les clubs qui gagnent les Scudetti, qui jouent aussi des finales de Coupe d'Europe. Et donc forcément, ça a servi clairement la Nationalmannschaft.
Yo, on a sous-estimé finalement ce passage des trois Allemands de l'époque à l'Inter quand on compare notamment avec Van Basten, Gullit et Riccardo Milan.
Je ne sais pas qui tu mets dans ce « on » parce que si la vision italienne, non. Ce que je disais tout à l'heure, en Italie, on a bien conscience qu'ils ont fait partie du décorum et de la starification des joueurs et des clubs au milieu des années 80 jusqu'à la fin des années 90, où là, ça a vraiment explosé en Italie. Ils ont été extrêmement performants, ils ont gagné des trophées. Ils ont aussi, à travers leur performance sur le sol italien lors de la Coupe du Monde 90, ajouté une dimension encore plus forte à leur expérience italienne. Après, moi, je pense que c'est plus notre vision à l'international sur les Néerlandais. En Italie aussi, on a quand même ce côté mystique autour d'Arrigo Sacchi et de ce Milan-là, et donc des Néerlandais par extension. Mais vraiment, mais même, on peut aller encore plus loin, les Brésiliens du Napoli avec Alemão et Careca qui entouraient Maradona. On peut aller chercher les Brésiliens de la Roma, Falcao, Cerezo et compagnie. On peut aller chercher les Soviétiques de la Juve. À la fin des années 80, début 90 aussi. Enfin, chaque club avait un peu son contingent spécifique, et on se retourne surtout avec beaucoup de nostalgie sur ça, parce que c'était vraiment très typique du football à ce moment-là, où on avait deux ou trois joueurs de la même nationalité dans chaque club et qui portaient ces clubs-là vers le haut, parce que il faut pas oublier qu'avant, alors je vais pas refaire toute l'histoire, mais avant 78, entre 66 et 78, les frontières italiennes se sont fermées pour les joueurs étrangers. Après la débâcle en 66 contre la Corée du Nord, les instances italiennes ont décidé de fermer la porte aux joueurs étrangers, donc plus de joueurs étrangers pouvaient venir, ceux qui étaient déjà présents pouvaient rester, mais il n'y avait plus de recrutement de joueurs étrangers. Et quand on a rouvert les frontières, il y a eu une espèce de respiration de se dire « Ah ça y est, on a à nouveau les meilleurs joueurs, pas seulement les meilleurs Italiens, mais aussi les meilleurs joueurs du monde ».
Prochaine étape donc, prochaine étape de cette rivalité, en tout cas de ce lien entre l'Inter et le Bayern, entre l'Inter et les joueurs allemands, ce sera donc ce quart de finale. On rappelle deux clubs amis, hein, l'Inter et le Bayern, ce sera donc quart de finale de la Ligue des Champions. Ce sera à vivre évidemment sur la radio RMC. Merci beaucoup Yo, merci Polo, vous serez avec nous dans les Drôles de Dames évidemment pour débriefer ce grand quart de finale à venir. Merci Lolo, et on se retrouve très vite pour un nouvel After Italy. Ciao.
RMC After Italy.